Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Ah, c'est les quatre bonjours du lundi matin. Bonjour, 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 bonjour. Pourquoi, Mathieu?
Ce sont les quatre bonjours de l'Apocalypse.
Oh, oh, wow, oh, ça commence fort ce matin, Mathieu Tessier à la régie. Ben non, moi j'allais dire, c'est parce que ce matin, il y avait quatre fois moins de monde.
C'est vrai.
Hein, sur les rues à Montréal. En fait, j'ai même pu m'asseoir dans le métro pour me rendre ici, ce qui arrive pratiquement jamais. Pourquoi? Parce que ce sont les semaines, les deux semaines de congé de la construction. 200 000 personnes qui sont en congé, quelque chose du genre, là, ou 180 000, genre, ah oui, c'est de l'argent. Ben, je commence l'émission en vous disant à la météo, c'est une journée d'été. Je pense que je ne vous apprends rien, il va faire beau et chaud. Des humidex qui peuvent aller autour de 30 dans le sud du Québec, 20, on parle plus de 25 dans le nord. Donc, généralement ensoleillé au Québec et en Ontario. Alternance soleil et nuages dans les provinces maritimes avec des humidex à 25-28. Bruine intermittente puis de la pluie à Terre-Neuve et Labrador. Là-bas, c'est plus frais. On est autour de 13 degrés au Labrador. Et puis, si on s'en va en Ontario, là, dans le nord de l'Ontario, il y a des veilles d'orages violents dans le nord de la province, des avertissements de qualité de l'air, parce qu'on sait les feux de forêt là-bas, ça indispose beaucoup de monde, dont un certain bonhomme orange au sud de la frontière, qui est très fâché de ça, puis qui veut mettre des tarifs au Canada parce que la fumée traverse la frontière. Ah, en tout cas, possibilité d'averses et d'orages dans l'ouest du pays, partout, avec un maximum de 26, et du soleil sur la côte ouest, 24, humidex 31 là-bas quand même. Et puis à l'émission aujourd'hui, bien, on a notre collaborateur insolite là, pour temporairement, là, qui est là pour remplacer Louis de Bernis, il s'appelle Pierre Perrault. Allô Pierre!
Allô, allô!
On parle de quoi aujourd'hui?
Ah, aujourd'hui, je vous amène dans la capitale nationale pour des visites nocturnes très spéciales. Et aussi à Burcomo, comme disait Brian Mulroney.
Burcomo, oui.
À Burcomo, oui. Et puis là aussi, on va aller chez les bootleggers.
Ici c'est Brian. Bon voilà, ça c'est mon imitation de Brian Mulroney. Et puis à l'émission aujourd'hui, la semaine dernière, il y a eu un problème technique qui a fait qu'on n'a pas eu notre entrevue avec Chloé Sainte-Marie, mais elle est là cette semaine. Alors c'est clairement, on l'a enregistré, ça fait que c'est clair qu'elle va être là. Et on va parler de espace LGBTQ ici à Montréal. Gros financement qui a été annoncé récemment, 12 millions de dollars, si je ne me trompe pas, pour le projet de construction d'un premier établissement, premier édifice complexe dans le village gay à Montréal. C'est quand même important parce que le village, c'est un point de rencontre très emblématique des communautés de la diversité sexuelle et de genre, et ça a un impact partout au Québec. On va parler aussi des correspondances des semaines, hein, ça s'en vient, la 24e édition, puis il y a ce qu'ils appellent des passeports, qui vont permettre aux gens d'aller voir pratiquement tout ce qu'ils veulent là, avec ça. C'est vraiment le fun comme idée. Et ben c'est ça. Et puis, il y aura Chloé Sainte-Marie, comme je l'ai dit. Et puis, c'est le temps peut-être de vous parler d'un peu aujourd'hui. Hein? Ça va être une journée, comme les jeunes diraient, « space hein? ». Parce qu'on va parler d'espace. En 1969, l'alunissage d'Apollo 11, le 20 juillet, 1969. Puis je pense que c'est le lendemain ou pas longtemps après qu'on a entendu ces paroles incroyables. C'est un petit pas pour l'homme, un bond géant pour l'humanité. D'ailleurs, le 20 juillet, c'est la journée de l'exploration spatiale. Et on s'en va en musique. Va en musique.
Par-delà les frontières, les prairies et la mer, dans les grandes noirceurs, sous le feu des chasseurs, dans les mains de la mort. Il s'envole encore plus haut, plus haut. Le cœur est un oiseau dans les yeux des miradors, dans les rues de nulle part, au milieu des
des airs de froid, de faim et de fer contre la tyrannie. Il refait son nid plus chaud, plus chaud. Le cœur est un oiseau. Ce n'était qu'un orage, ce n'était qu'une cage. Tu reprendras ta course, tu iras à la source, tu boiras tout le ciel. Ouvre tes ailes, liberté, liberté, liberté.
Alors, bien oui, on vient d'entendre la fabuleuse chanson « Le cœur est un oiseau » de Richard Desjardins. Et ça nous amène à parler avec notre premier invité. En fait, là, vous avez compris que je change un petit peu l'habitude ici parce qu'on fait les unes et les par actualité à cette heure-ci. Mais notre invité avait besoin qu'on lui parle plus tôt parce qu'elle avait des engagements. Donc, on va la prendre tout de suite. Alors, ma première invitée, c'est la metteuse en scène et comédienne et directrice artistique du théâtre L'Œil ouvert et de la pièce qui s'appelle L'effet Lisa. Elle s'appelle Jade Bruno, elle est chanteuse aussi, vous devriez l'entendre. Et c'est un théâtre musical donc ambitieux, librement inspiré de l'œuvre monumentale et engagée de Richard Desjardins. Donc, l'effet Lisa. Bonjour Jade, bienvenue à Canalem.
Bonjour, bon matin.
Bon matin. Hey, avez-vous eu le temps de... Attends, je vais te souhaiter, on se connaît. As-tu eu le temps de te reposer? Parce que c'est vraiment un gros show, là. Puis t'es présente sur scène tout le temps, là.
Absolument. Bien, on avait un spectacle samedi après-midi, donc j'ai eu la journée d'hier là, pour me reposer.
Ah, bravo, bravo. Je dis ça parce que, vous allez voir, on va en discuter un peu si on a le temps dans le courant de l'entrevue, mais le théâtre de l'Œil ouvert fait beaucoup de spectacles et des choses très intéressantes. Et Jade est souvent sur scène avec des gros rôles, en plus de faire plusieurs autres fonctions là, dans la présentation de ses œuvres. Bon, on y va. Le théâtre de l'Œil ouvert, Jade, c'est reconnu ou connu pour porter des projets centrés sur des figures féminines fortes ou des thèmes féministes. Qu'est-ce qui a poussé cette fois-ci, pour la première fois, à bâtir un spectacle complet autour donc de l'univers de l'artiste masculin, Richard Desjardins?
Ben oui, absolument. C'est une très bonne question. Dans les dernières années, on a travaillé autour de l'œuvre de Diane Dufresne, oui, de Clémence Desrochers. On a raconté la Poune, même la Corriveau. Et là, cette fois-ci, ben, on avait envie d'abord de parler d'un sujet qui est très brûlant d'actualité, j'ai envie de dire.
Oui.
On était nous-mêmes habités par les enjeux environnementaux, les feux de forêt la situation de notre forêt boréale. Donc, rapidement, on a pensé à Richard Desjardins. Mais pour moi, il y avait là une corrélation, en fait, j'ai envie de dire une parenté directe aussi avec les femmes, parce que pour moi, Richard Desjardins a chanté les femmes comme personne. C'est-à-dire que dans l'univers de Richard Desjardins, les femmes sont fortes, elles sont puissantes, elles sont en pleine possession de leurs désirs, elles ne sont pas menaçantes. Au contraire, on sent chez lui une admiration pour les femmes. C'est pour moi les plus belles chansons d'amour que le Québec a pu avoir. Et ben, ils sont pas non plus fleurs bleues. Il y a pas quelque chose de romancé, de princesse de Disney. Au contraire, c'est brut, c'est cru. Il y a quelque chose qui existait. Il y avait là une matière, un terreau fertile pour nous. Donc, on a plongé là-dedans à pieds joints, puis on a eu la chance et le grand privilège d'avoir son accord et sa carte blanche. Donc, pour nous, c'était vraiment une grande, grande joie. Puis là, ça fait déjà 3 ans qu'on est plongé dans ce projet-là. Et on a commencé les représentations le 10 juillet. Mmh. On rencontre le public et c'est la folie furieuse.
Ah oui, ça marche. Les gens dans la salle, moi, j'entendais mes voisins fredonner les chansons à tout bout de champ, oui.
Ah oui, non, c'est extraordinaire. Il y a vraiment quelque chose de magique. Je pense que les gens qui viennent voir le spectacle sont bien sûr des gens qui aiment le théâtre, certains qui nous suivent, le théâtre musical, le théâtre de l'œil ouvert. Mais on a aussi la chance de rencontrer le public de Richard Desjardins, qui est un public exceptionnel. Puis tout ça, ben ça crée des moments de magie. Là. J'ai envie de vous dire que quand on entend les trois premières notes de « Tu m'aimes-tu »,
oui,
la salle arrête de respirer. Là.
Ah, c'est vrai, c'est vrai. Jade, on n'est pas dans la simple biographie ici, mais c'est plutôt un tricot narratif très original, hein, avec des personnages inventés et des répliques issues de ses chansons, de ses documentaires, de ses entrevues. Alors, pourquoi ce choix? Ce qu'on fait pas, c'est pas la biographie de Richard Desjardins qu'on voit ici, là.
Absolument. On n'est pas dans une revue musicale ou dans un spectacle biographique. On s'est vraiment permis d'inventer une toute nouvelle histoire, donc d'écrire une fiction à partir de ses chansons et des personnages qui sont dans son œuvre. Donc, on retrouve le bum, le bon gars, Jenny, la femme de ménage, la serveuse du Boomtown Café qu'on appelle l'enracinée, la femme de ménage de Tu m'aimes-tu, je l'ai dit, et l'homme du camp qui, lui, est une espèce de... ce personnage mystérieux qui est à la fois peut-être une représentation de Richard Desjardins, puis lui, il jase avec la lune, qu'on a appelée Lisa, de la chanson « L'effet Lisa ». Donc, on est en plein cœur de Company Town, qui fait référence à une ville bien connue, et puis les personnages se trouvent en plein cœur d'un feu de forêt, et tout au long de l'histoire, on se demande d'où vient le tison qui a tout allumé ce feu-là, comment ça qu'il y a un feu, et on réalise que c'est une succession de petits feux. C'est parce qu'on s'aime, on se déchire, on meurt, on est. C'est nous qui mettons le feu. Donc, on est évidemment dans de la poésie. On est évidemment dans un univers un peu décalé. On aborde tous les thèmes chers à l'œuvre de Richard Desjardins, la forêt boréale, l'environnement, la fonderie Horn et aussi les premiers peuples, les autochtones. Tout ça est au cœur du spectacle. Et puis, ben, je pense qu'on réussit à tisser une fresque assez fidèle à son univers, tout en se le réappropriant. Donc, si les gens veulent entendre des covers identiques, c'est peut-être pas avec nous qu'ils vont pouvoir le faire, mais par contre, ils vont entendre Richard Desjardins comme ils l'ont jamais entendu et d'une façon nouvelle qui donne des frissons de la tête aux pieds.
On parle donc de cette ville fictive, Company Town, comme tu as dit. En quoi le contexte écologique là, reflète, en fait, de ce spectacle, reflète-t-il l'urgence? Parce que là, on est vraiment dans l'urgence présentement. Des feux de forêt, il y en a partout. Puis on le voit le matin en se levant. Donc, finalement, il y a comme une espèce de convergence de l'actualité et de votre spectacle.
Ouais. Absolument, ça donne des frissons. C'est vraiment particulier. Puis quand on a eu l'idée de parler de ça il y a 3 ans, c'était une année déjà record en termes de feux de forêt au Canada. Puis on se dit, oh mon Dieu, on souhaite que ça diminue. Mais en même temps, là, les années ont passé, puis ça se maintient d'année en année.
Ben
c'est
oui.
pas c'est pas que ça empire. Donc, c'est assez particulier pour nous de raconter une histoire qui prend place en plein cœur d'un feu de forêt pendant que notre ciel est lui-même rempli de cette fumée-là. Je pense que, évidemment, nous, dans le spectacle, on n'est pas dans les chiffres, on n'est pas dans les statistiques, on est dans de la poésie, on est plus dans ressentir ou dans quelque chose de sensoriel pour aborder tout ça, parce que notre intérêt n'est pas nécessairement de générer plus d'éco-anxiété, mais plutôt de mobiliser les gens autour d'une urgence d'agir, mais dans un esprit d'espoir, parce que on a besoin d'espoir, sinon c'est trop dur d'avancer au quotidien. Donc, notre volonté, c'est quand même de faire en sorte que les gens quittent la salle en ayant envie de prendre soin de la terre, des femmes, des communautés autochtones, de notre langue et de pourquoi pas de un de nos plus grands poètes, de sa musique et de ses textes.
Un choix de mise en scène ou de scénographie intéressant. En plus des comédiens chanteurs, on retrouve aussi sur scène le pianiste Marc-André Perron et le violoncelliste classique là, Stéphane Tétrault. Pourquoi ce choix de les mettre dans le show, qu'on les voit, qui sont là omniprésents tout le temps?
Bon, j'ai envie de vous dire là, en toute humilité que ça, c'est ma petite idée de génie.
Écoute, on a le droit d'avoir cette petite humilité-là, s'il te plaît.
Ben, Marc-André Perron, il faut dire que c'est le pianiste et le directeur musical avec qui on a travaillé dans les 6 dernières années pour faire les arrangements de tous nos spectacles. Donc, c'est une histoire déjà qui dure et qui traverse les années artistiques. spécifiquement. C'est un grand musicien, c'est un immense pianiste et c'est un artiste qui a énormément de sensibilité pour accompagner des interprètes comédiens-chanteurs. Donc, pour moi, le choix était tout indiqué. Et en discutant avec Marc-André, à un moment donné, j'ai eu l'idée de Stéphane Tétrault parce que Richard Desjardins a souvent dit « L'arbre le plus payant, c'est celui dans lequel tu fais des violoncelles. » Puis là, je me disais, ben nous, on pourrait avoir un violoncelliste avec nous sur scène, puis qui est au cœur de la scénographie avec son instrument magnifique, en plein cœur d'une forêt décimée, brûlée. Il me semble que ce serait beau. Et là, un jour, ben, je découvre Stéphane Tétrault et son immense talent. Et là, je me dis, bon, là, on a ici un musicien étoile qui joue sur un instrument qui appartient à un autre monde. Parce que Stéphane, son Stradivarius, il date de 1707. Mm-hmm. Ça n'a pas de bon sens. C'est un des 12 violoncelles les plus rares et les plus prestigieux dans le monde. Et là, il était avec nous sur scène. Puis j'ai envie de vous dire que Stéphane Tétrault, quand il joue, il danse. C'est fascinant de le voir jouer. Il y a une présence, mon Dieu, magnétique. Et avec les interprètes qu'on a sur scène, c'est comme un dialogue.
Oui. Mais en fait, on dirait qu'ils font partie du show. Quand ils sont maintenant, quand on est dans le café, on a l'impression qu'ils sont là, puis ils font partie du show. Alors, c'est sûr que s'ils avaient juste été là pour jouer, ça n'aurait peut-être pas passé. Mais le fait qu'ils sont là, puis qu'ils jouent avec les autres interprètes, ça ajoute, là.
Ben absolument. Ils deviennent des personnages. Des fois, je leur dis, savez-vous un shooter, là? Puis là, ils prennent un petit verre au travers de tout ça. Mais pas un vrai, là, on s'entend, ouais. C'est du théâtre. Mais c'est vraiment très agréable de les avoir avec nous. Je pense que pour Stéphane, c'est une nouvelle expérience. Puis tout ça, c'est bien enrichissant pour tous les membres de l'équipe.
Alors, moi, j'ai vu Jean-François Casabonne, que je connais comme artiste, comme comédien. Je connaissais moins ses talents de chanteur. Pour moi, ça, c'était une découverte.
Mais il est formidable. Ah, je ne pouvais pas rêver mieux pour mon homme du camp. Ah, Jean-François Casabonne, il a une façon de croquer dans les mots qui est rare. Il interprète, il incarne la poésie au complet. Donc, évidemment, j'ai toujours besoin d'avoir des interprètes qui savent chanter. On fait du théâtre musical. Mais ma priorité, c'est toujours d'avoir d'abord des interprètes, des comédiens, comédiennes de pointure. Ouais. Parce que c'est des petites distributions. Tu sais, on est quand même sept, à sept, pour tout faire, les rôles, pour faire les chœurs, pour tout défendre, ça prend des gens qui ont beaucoup d'agilité. Mm-hmm. Et puis, ben, Jean-François correspondait tout à fait à ça. Mais en plus, il a cet amour de la poésie, cet amour des mots qui fait en sorte que lorsqu'il nous fait l'effet Lisa au tout début du spectacle, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Tous les soirs, je me dis, quel privilège. C'est vraiment un grand comédien. Quelle belle voix. Tout est comme dans mes rêves les plus beaux.
Je vais prendre un petit peu de temps pour parler aussi qu'au-delà de la scène, la production là, fait vraiment son effort au niveau écologique, parce qu'on prévoit même une plantation d'arbres en 2027 pour compenser l'empreinte carbone du show. C'était important, c'était une condition. Pourquoi vous avez fait ça?
Bien, en fait, on essaie toujours au Théâtre de l'œil ouvert de... Bien sûr, notre mission, c'est de créer, de produire et de diffuser des spectacles. Bon, on pourrait s'arrêter là. Mais pour moi, pour Simon Fréchet-Daou, qui est à la co-direction artistique avec moi, on dirait qu'on essaie toujours de trouver une façon d'utiliser l'art comme une occasion aussi de rencontre. Donc, tout au long du processus de création, on fait des rencontres de médiation culturelle, on fait des tables rondes, on en profite pour faire se rencontrer les artistes et les citoyens et les citoyennes. Donc, parfois, par exemple, dans le processus de la Corriveau, la soif des corbeaux, on avait rencontré des femmes victimes de violences conjugales, on est allé dans des centres de femmes. On essaie toujours de... Ça, le public le voit pas nécessairement, mais pour nous, c'est comme si tout d'un coup, l'art devient utile et l'art devient vraiment essentiel, autant avant, pendant qu'après la diffusion du spectacle. Et ben, cette fois-ci, avec Richard Desjardins, on se disait, ben, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement au-delà du show pour être cohérent dans notre démarche puis aller jusqu'au bout? Donc, on a eu envie de rencontrer des biologistes, des experts en environnement pour s'assurer que ce qu'on disait, c'était juste. Et puis, ça nous a éveillés nous-mêmes sur plein de choses. On a eu envie, dans nos méthodes de production, d'être le plus... vert possible, autant que faire se peut. Donc, de réfléchir à la tournée aussi de façon éco-responsable, d'encourager le covoiturage, de faire du réemploi au niveau du décor et des costumes, c'est-à-dire de réutiliser de l'ancien matériel qu'on transforme. Et puis, ben tout ce qui a été construit à partir de matériaux neufs, donc à partir de bois, on s'est dit, ben on va replanter l'équivalent, sinon le double, pour s'assurer que nos forêts continuent de... Mais c'est des petits gestes.
Ouais.
C'est pas grand-chose en plus, mais c'est le minimum. Si on se dit...
Ouais. J'ai juste le temps commence à nous manquer. Je vais juste avoir une dernière petite question. Est-ce que Richard Desjardins a vu le spectacle et comment a-t-il réagi?
Pas encore. Il m'a promis qu'il allait venir au moins deux fois, mais okay. Je sais pas quand.
OK.
Je sais pas quand, mais ceci dit, on a 75 représentations partout à travers la province. Donc, d'après moi, il va avoir le temps de venir nous voir d'ici la fin du mois d'avril 2027. Là, on est à Joliette jusqu'à la fin du mois de juillet, début août. Ensuite, on s'en va à Victoriaville tout le mois d'août. On est en septembre-octobre à Québec, à la Bordée. Et ensuite, on prend une grande tournée qui commence à Montréal en janvier 2027 au Théâtre Saint-Denis, avant de s'arrêter dans toutes les villes du Québec. Donc, on est extrêmement privilégiés, heureux. Puis quand Richard va venir, mon Dieu qu'on va être contents. Mais je pense que je ne le dirai pas aux comédiens. Je vais
l'en dire juste après. Non, après, justement. Si on veut s'informer, acheter des billets, il y a un site web pour ça?
Oui, lesfelisa.ca, toutes les dates sont là.
Bon, ben merci beaucoup, Jade Bruno, puis bon succès. Merci.
Merci beaucoup. Merci, bonne journée.
La dopamine dans les veines, j'suis comme Call Me Mr. Vane. J'dors Kill Bill à chaque réveil, les requins me guettent mon ADN. Pis j'reste Chill Bill comme Kurt Cobain, j'veux dire tant que tu m'entertaines. Je sais, j'ai plus peur, baby, la glace sous mon pied. Na 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 na. J'avance sur la green light, je sais. Je guette pas de ticket. Si j'ai un fuck, j't'aime la mairesse. Boy, j'ai ben du backup sur ma banquette. J'ride juste avec les gros G du Québec. Le temps est précieux, mes skills sont pushés. J'suis en bonne position à battre les déchets. Je veux battre les singles, pis j'guette le cachet. Fais mon ramène, pis oublie pas sa chaîne.
On allait un peu vite, ma petite madame.
C'est le même film, c'est le même feel. Comme on drive in quand j'ai le green light, je sais. Mon histoire de tempête, je fais.
Laurence Nerbonne et sa chanson Green Light.
Alors, c'est le moment de faire les unes de notre journée aujourd'hui. Dans la presse plus, l'Espagne a décroché la deuxième coupe du monde de son histoire en battant l'Argentine 1-0 après prolongation. La finale a été disputée au stade de New York, New Jersey. Après un temps réglementaire sans but marqué, mais frappé par l'expulsion du joueur argentin Enzo Fernandez en fin de seconde période, la décision s'est jouée à la 116e minute. Sur la remise de la tête de Nico Williams, l'attaquant Ferran Torres a inscrit l'unique but de la rencontre. Cela a offert un sacre mondial à la sélection espagnole 16 ans après son premier titre obtenu en 2010. Le Devoir, les fouilles complètes à nu dans les centres de jeunesse du Québec suscitent de vives préoccupations. Elles doivent être appliquées comme des mesures d'exception et encadrées par des directives strictes pour protéger la dignité des joueurs, des jeunes, pardon. Je vais te parler de soccer, fait là je parle de joueurs et de jeunes. Or, les données des témoignages récents révèlent qu'elles continuent d'être pratiquées de manière récurrente et parfois quasi systématique dans certains établissements. La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, ainsi que plusieurs intervenants sociaux, dénoncent cette surutilisation. Ils rappellent que ces interventions intrusives peuvent causer des traumatismes majeurs chez les adolescents. Les autorités administratives se voient interpellées afin de réviser les protocoles internes et garantir un respect rigoureux des cadres légaux en vigueur. Au Royaume-Uni maintenant, Andy Burnham prend la tête du gouvernement, c'est dans la Presse Plus. Il succède ainsi à Keir Starmer comme premier ministre. L'ancien maire du Greater Manchester devient ainsi le 7e chef de gouvernement britannique en 10 ans. Désigné chef du Parti travailliste sans opposition à la suite de la démission de son prédécesseur, Andy Burnham doit se rendre au palais de Buckingham pour rencontrer le roi Charles III afin de prononcer son premier discours officiel devant le 10 Downing Street. Et les paractualités maintenant dans la Presse Plus. Oh. Je suis désolé, c'est pas le bon texte. Dans la Presse Plus aujourd'hui, des personnes en situation de handicap et des organismes de défense de leurs droits expriment leurs craintes quant à l'épuisement précoce des fonds du programme d'adaptation de domicile de la Société d'habitation du Québec. La hausse marquée des coûts de construction combinée au volume élevé de demandes exerce une forte pression sur l'enveloppe budgétaire accordée par le gouvernement provincial. Cette situation entraîne des délais de traitement de plusieurs mois, voire de plusieurs années, pour l'exécution de travaux essentiels. On parle ici de l'installation de rampes d'accès ou de lèvres-personnes ou l'aménagement de salles de bain sécuritaires. Pour plusieurs usagers retenus à l'hôpital ou confinés chez eux, ces retards compromettent directement leur autonomie et leur maintien à domicile. Les groupes d'aide et les représentants du secteur réclament un rehaussement majeur du financement public afin d'éviter un arrêt complet des subventions avant la fin de l'année financière et de répondre adéquatement aux besoins croissants de cette population. Ah, ben là, il ne nous reste que quelques secondes. On va vous parler de cette deuxième partie d'émission qui s'en vient. D'ailleurs, d'abord, ben, on va avoir Pierre Perrault pour parler de ces nouvelles insolites du Québec. Et puis, on va parler d'Espace LGBTQ+, qui vient d'obtenir un financement pour la construction de son complexe ici à Montréal, dans le village. On va aussi parler à Chloé Sainte-Marie et on va parler des correspondances d'Eastman. Et puis, je vous rappelle qu'à la météo, ben, c'est une journée normale d'été. C'est chaud. C'est plutôt plus difficile dans le nord d'Ontario avec les problèmes de feux de forêt et la fumée qui vient avec, hein, c'est pas facile. Alors, dans ce coin du pays, c'est pas très drôle aujourd'hui. Soyez patients. Et nous, on vous reparle après la petite pause qui suit.
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Pas parle-moi pas. Moi, j'écoute la musique country. Plus besoin de chercher pour une place, pas les timings. Le pire va ramasser les boys avant de venir me chercher. Moi j'écoute la musique country.
Les gars du Nord et leur chanson Bootlegger.
Je vais profiter de la présence de Pierre Perrault qui est ici pour parler du départ d'un grand militant des communautés queer et de la diversité sexuelle et de genre ici à Montréal. Il s'agit de Michael Hendricks. C'est peut-être un nom qui ne vous dit pas grand-chose. Je pense que c'est un des premiers couples à se marier, lui et René Leboeuf. Et en fait, Michael Hendricks, qui était États-Unien d'origine, avait décidé de quitter les États-Unis parce qu'il était en profond désaccord avec les politiques de son gouvernement, notamment avec la guerre au Vietnam. Il est arrivé à Montréal et puis il parle très bien français, il a appris la langue et surtout, il s'est rendu compte que, oui, il y a des injustices aux États-Unis, mais il y en a vu ici au Canada. Il est devenu un militant, d'abord pour dénoncer le fait que plusieurs hommes gays étaient assassinés à Montréal et que la police ne faisait pas autant le bon travail qu'on pouvait s'attendre d'eux. Et donc, le comité dire enfin la violence. Michael Hendricks a été de tous les combats pour les communautés. Et pour ceux et celles qui ont vu la pièce de théâtre Corps fantôme au Théâtre du Cep, on a même joué son personnage sur scène. Alors, il est décédé samedi matin. Il était d'une maladie, une longue maladie. Et là, ça va expliquer un petit peu pourquoi on devait l'interviewer à la série d'émissions Pierre Affirmation. Et bon, au moment de faire l'entrevue, j'avais appris qu'il était très malade, qu'il ne pouvait pas se présenter. Alors voilà, ça s'explique cela. Puis nos condoléances à sa famille, aux siens et aussi à toutes les personnes des communautés queer. Pierre, toi, tu as connu un peu cette époque-là. Tu as peut-être moins connu Michael, par contre?
Ben, je ne l'ai pas connu personnellement, mais je connais le personnage.
C'est un monument, oui.
Je l'ai rencontré dans des événements, dans des activités, mais c'est toujours quelqu'un qui attirait beaucoup les gens, allaient le voir, allaient parler avec lui, parce qu'on se rendait compte que c'est quelqu'un qui avait marqué l'histoire du développement des communautés LGBTQ à Québec, à Montréal, mais même partout au Québec.
Oui, une grande personne qui nous quitte. Alors, ben quand même, hein, un salut à Michael Hendricks. Ben voilà, c'est le temps de passer à la chronique de Pierre aujourd'hui. On va se rendre à la Malbaie, dans Charlevoix, et dans la capitale nationale, la merveilleuse ville de Québec. Et ben oui, je suis natif de la ville de Québec, je peux bien le dire. Et pour connaître et découvrir deux activités tout à fait insolites qui devraient en intéresser plusieurs.
Oui, mais je vais commencer par une petite correction, parce que tantôt en présentation, j'ai parlé de Baie-Comeau. Je fais souvent l'erreur de confondre Baie-Comeau et Lamadou.
On s'en était pas rendu compte.
moi, je m'en suis rendu compte en me préparant pour l'entrevue. Alors voilà, on s'en va à Lamadou. On se rend d'abord à la maison du bootlegger à Lamadou, dans la superbe région de Charlevoix, qui n'est pas très loin de la capitale nationale, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'un bootlegger, au juste? Est-ce que tu sais ce que c'est?
Ben, moi, qui ai de la deux cultures, oui, mais je vais te laisser l'expliquer.
Oui, le terme bootlegger désigne un contrebandier d'alcool clandestin, particulièrement célèbre à l'époque de la Prohibition aux États-Unis et au Canada, dans les années 1920 à 1933. Le mot vient de l'anglais « bootleg », jambe de botte, en référence aux personnes qui dissimulaient des flasques d'alcool dans leurs hautes bottes pour éviter les contrôles. À une époque où la vente et la consommation d'alcool étaient illégales, les bootleggers approvisionnaient les bars clandestins, ce qu'on appelle les speakeasies, en bravant les forces de l'ordre. Cet univers a donné naissance à un riche folklore immortalisé par des figures historiques et de nombreux hommages culturels, dont celui de Lamadou. Voyage inusité au cœur de l'époque de la Prohibition, la maison qui nous accueille fut érigée en 1860 avant d'être entièrement démantelée puis reconstruite à son emplacement actuel au début des années 1930. Transformée en un labyrinthe avec des portes cachées pour déjouer l'escouade des mœurs, elle abrite des couloirs secrets, des bars camouflés, une salle de jeu, des chambres privées. Dès l'arrivée, le visiteur est introduit au mystère du premier escalier secret menant au speakeasy dans le grenier, et il devra d'abord descendre pour mieux remonter. C'est très intéressant. On va vous montrer le bar camouflé qui permettait d'approvisionner la maison par le mur extérieur. Il ne faut pas manquer l'authentique signature d'Elvis Presley qui s'y trouve. D'ailleurs, j'ai fait des recherches, mais je n'ai pas compris pourquoi, qu'est-ce qu'Elvis Presley venait faire là, mais en tout cas, peut-être, je ne sais pas si...
Il prendre un verre, peut-être.
Hein? Peut-être, à l'époque. En fait, c'est un véritable musée à découvrir. Le visiteur resta surpris devant cette demeure colorée, tout comme l'était le personnage qu'il a opéré pendant plus de 40 ans. Mais il y a deux niveaux à cette visite. Les visites guidées ont lieu le samedi et le dimanche après-midi jusqu'au 30 août. Ceux qui veulent juste faire une visite guidée. Mais c'est aussi un restaurant. Le restaurant de type Take-House, qui est situé à l'étage de l'ancien club Select, est ouvert tous les soirs, toute l'année, sauf du 20 décembre au 15 janvier. Cuite sur charbon de bois à l'érable, juste le menu, là, ça donne le goût d'y aller. Cuite sur charbon de bois à l'érable, aromatisée aux copeaux d'hickory, les viandes sont saupoudrées de leur fameuse épice bootlegger et servies avec la sauce backfire. Toutes les soirées du bootlegger comprennent le repas, les tables d'hôtes, une visite guidée de la maison et un spectacle de musique au son endiablé d'un des bands, l'orchestre de la maison. Fait souligner et intéressant pour cette région, l'endroit est accessible en motoneige l'hiver et les groupes de motoneigistes y trouveront une ambiance unique. Donc, pour tous les détails pour la maison du bootlegger, on va visiter le site maisondubootlegger.com.
Bon, je vais m'acheter des bottes hautes là, pour que je puisse faire mes bouteilles d'alcool, moi qui ne bois pas, ça va.
Bien sûr.
Ça va. Écoute, on se déplace maintenant à Québec pour une activité nocturne, les promenades fantômes.
Oui, je pense que ça t'intéresse beaucoup, d'après ce que j'ai compris.
Ouais.
À la tombée de la nuit, des fantômes tels que le spectre de Marie-Rivière et le bourreau Jean Ratier errent dans les rues du Vieux-Québec. Il m'est arrivé plusieurs fois au fil des années, parce que je suis originaire de Québec aussi, de rencontrer des petits groupes de gens la nuit, le soir tard, qui se promenaient avec un guide. Puis je me suis toujours demandé à l'époque qu'est-ce que c'était, comment les gens visitaient la nuit. Ben c'est ça. Ils nous plongent au temps de la Nouvelle-France, autrefois lieu de perdition de nombreux criminels, lors d'une visite guidée animée qui sort des sentiers battus. Les crimes et châtiments racontés sont authentiques et donnent la chair de poule. Puis ceux qui sont allés affirment qu'il est difficile d'oublier la description fort colorée du supplice de la roue.
Ah mon Dieu, oui, je sais quoi, oui. Quelle horreur.
La visite permet de voir Québec sous un autre angle et même de découvrir des endroits dont on ignorait l'existence, comme la rue sous le cap. Plusieurs visites différentes sont proposées, dont crime en Nouvelle-France. Et ça, je pense que c'est particulièrement intéressé à crime de la
Nouvelle-France. Oui, moi, ça me... je suis devenu amateur des podcasts, là, des balado-diffusions oui. sur les crimes. C'est tellement fascinant. Et puis, je pense que dès que j'ai vu ça, je pense que je vais aller faire ça quand je serai à Québec cet été.
Bien, l'histoire de la Nouvelle-France regorge d'ignobles crimes, d'arrestations et d'exécutions qui hantent toujours le Vieux-Québec. Le plus célèbre des bourreaux, Jean Ratier, ou sa femme, l'irréductible Marie Rivière, vous les raconte avec un humour à glacer le sang. Alors, il faut dire que c'est des comédiens qui prennent la place de ces personnages-là et il semble qu'ils sont très, très bons. De la Haute-Ville en passant par la Basse-Ville, Québec renferme une multitude d'anecdotes à faire frémir une fois la nuit tombée. Laissez-vous habiter par l'atmosphère sombre de la vieille capitale et revivez les sordides détails d'une histoire trop longtemps gardée secrète. Il y a aussi la mort en Nouvelle-France. Préparez-vous à découvrir, parce qu'il y a plusieurs, si on va sur le site, on voit qu'il y a plusieurs spectacles différents. Préparez-vous à découvrir le vrai visage de la mort au 17e siècle. Cette visite animée en Nouvelle-France vous plonge dans les rites funéraires. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment. Mm-hmm. Les anciens cimetières, les enterrements approximatifs de l'époque à travers les histoires lugubres de votre guide hautement vivant. Quels étaient les lieux de repos, le repos éternel, il faut le dire, au sein du Vieux-Québec? Comment disposait-on du corps des criminels, des pauvres, de l'élite? Quels étaient les rites des colons lors du trépas? Comment la mort était-elle vue à l'époque? Venez percer les secrets mortuaires bien enterrés, lors d'une balade funèbre, mais ô combien divertissante. Les promenades ont lieu depuis plus de 20 ans, et ça, peu importe la température extérieure, et ça dure entre 60 minutes et 2h30, selon le circuit qu'on décide de prendre. Elles ont lieu les jeudis, vendredis et samedis, et ça, toute l'année. Donc, pour plus de détails sur ces activités fort intéressantes, consultez le site promenade avec un S, fantôme avec un S.com.
Ah, j'ai souvent entendu dire que Québec, c'est une ville plate, une ville dortoir. Bien là, on vient de ça, tout ça. Méfiez-vous, quand les lumières sont éteintes, il se passe des choses. Merci beaucoup, Pierre.
Ça me fait plaisir.
Quand vient le temps de chasser les orages, je perds le sens de ton plus grand voyage. J'essaie d'attraper les lueurs qu'il reste de ce que tu es. Quand la garde baisse et les cris s'enchaînent comme les éclairs que tu me lances en SOS, les cris reviennent sur terre. Mais tu ne me laisses pas entrer dans ton château de sable. Les murs suissent pour se détruire à la moindre rafale. Mais je sais qu'au fond tu le caches, que tu t'élèves comme une cathédrale. Les ombres mènent le bal sur tes pensées, celles qui éclipsent le chemin traversé. Les heures s'effondrent quand tu ne peux plus battre les fois qui font que ton cœur éclate. Et si on ne peut plus s'élever, je ne serai qu'une aile qui peut t'aider à voler. Je ne sais plus t'aider. Mais tu ne me laisses pas entrer dans ton château de sable. Les murs suissent pour se détruire à la moindre rafale. Mais je sais qu'au fond tu le caches, que tu t'élèves comme thank you.
vient le temps de chasser les orages. Je perds le sens de ton plus grand voyage.
Cœur de pirate et sa chanson Château de sable.
Mais le prochain sujet n'est pas un château de sable, je peux vous le dire, parce qu'un jalon majeur dans la revitalisation du village de Montréal, quartier emblématique de la diversité sexuelle et de genre, dont l'importance dépasse les frontières de Montréal, donc ça vient d'être annoncé, c'est que Espace LGBTQ+ vient d'obtenir un financement de 12 millions de dollars pour la mise sur pied d'un complexe communautaire dans le village à Montréal, qui deviendra peut-être le plus grand complexe communautaire LGBTQ+ francophone au Canada. Pour en parler, je reçois Quentin Bella, qui est chargé de communication pour l'organisme Espace LGBTQ+. Bienvenue à l'émission.
Bonjour, merci beaucoup de me recevoir.
Alors, Quentin, pour situer le public, là, peux-tu d'abord nous expliquer ce qu'est exactement Espace LGBTQ+ et quelle est sa mission?
Oui, tout à fait. Espace LGBTQ+, c'est une OBNL qui est fondée depuis 2019. Ça a été fondé par 13 organismes de la communauté. Et il y a eu un constat de fait, c'est qu'il y a de plus en plus d'organismes qui sont évités, enfin, qui sont renvoyés de leurs locaux parce que les locaux sont plus d'usage ou les loyers sont trop chers.
Ouais.
Fait que le constat était vraiment fait de, il faudrait que quelqu'un prenne ce lead-là et puisse nous aider à trouver des locaux abordables. Donc, c'est toute notre mission, c'est de développer des complexes, de pouvoir trouver des locaux abordables, en tout cas pour la communauté.
Parce que c'est un problème qui dépasse les frontières de la communauté LGBTQ+. La crise du logement a un effet domino sur les locaux locatifs pour les organismes. Alors, c'est quoi les principaux besoins des organismes de la diversité sexuelle et de genre qu'on veut répondre à l'espace LGBTQ+ là?
Là, actuellement, c'est de pouvoir répondre à ce manque de locaux abordables. Mm-hmm. Clairement, c'est vraiment la crise majeure. De pouvoir aussi leur offrir... Là, aujourd'hui, leur mission, elle est un petit peu divisée dans le sens où ils seront obligés de chercher... on va peut-être se faire virer dans un an, donc on met l'énergie un peu dessus pour retrouver des locaux. L'idée, c'est vraiment de leur apporter un soutien qui est vraiment pur technique, d'avoir un espace où ils vont pouvoir faire leur mission et se concentrer uniquement sur leur mission. De pouvoir même leurs ressources, celles qu'ils ont, à travers de leur mission et puis les répartir dans une charge de loyer qui augmenterait chaque année. C'est vraiment l'objectif premier pour le coup. Et le deuxième, c'est de pouvoir mutualiser nos savoirs. C'est qu'aujourd'hui, chacun est un petit peu dans son espace, se parle pas toujours. L'idée, c'est de pouvoir vraiment réunir tout le monde, pouvoir communiquer tous ensemble, de pouvoir échanger ce qu'on sait, nos bonnes pratiques. Donc, c'est vraiment tout le but de notre projet.
Oui, et d'ailleurs, c'est un sujet important parce que beaucoup d'organismes, parfois, pourraient apprendre des autres et améliorer leurs pratiques à eux. C'est important, tout ça. Alors, peux-tu décrire le projet d'édifice physique là, qui s'appelle Espace plus Village, qui va être situé sur la rue Sainte-Catherine-Est?
Oui, c'est exact. Ça va se trouver pas loin de l'Olympia ou juste à côté de la Graine Brûlée pour ceux qui sont avec le village. Ce premier complexe communautaire LGBTQIA2S+, francophone en Amérique du Nord. Le francophone a une importance parce qu'il existe d'autres complexes comme ça au Canada, que ce soit à Vancouver, à Toronto ou à Winnipeg, mais il n'en existe pas tel au Québec. Ça va réunir une dizaine d'organismes. Il pourrait y en avoir plus. Là, ça serait 10 organismes locataires. Mmh. Mais l'idée, c'est qu'on va avoir des salles qui pourront être louées par d'autres organismes, que ce soit pour de l'événementiel, que ce soit pour des réunions, les AGA en l'occurrence.
Du coworking.
Du coworking, exactement. Ça va se faire sur 3 niveaux. Il va y avoir un premier niveau d'accueil avec un espace librairie. Le Galion viendrait nous rejoindre sur la rue Sainte-Catherine. Il y aurait également Inclusion Sport qui aurait des salles de sport sur le rez-de-chaussée. Enfin, salles de sport. Salles de combat, donc c'est des salles de tatami en l'occurrence. Sur les niveaux supérieurs, c'est soit des salles de coworking ou soit des bureaux pour les locataires. Et le dernier étage, ce dernier niveau, c'est un niveau vraiment, pour le coup, purement communautaire, parce qu'il va y avoir une cuisine collective, il va y avoir une grande salle multimédia qui va permettre de faire de l'événementiel, du multifonctionnel, en l'occurrence, et un toit-terrasse.
Ah oui, ça va vraiment améliorer l'édifice, parce que parlons-en justement de l'édifice choisi. C'est l'ancien bâtiment, là. Moi je suis pas de Montréal, je connaissais pas ça, mais ça s'appelait Desjardins Fourrures. C'est un édifice qu'on dit patrimonial. Alors comment le concilier la préservation de cette de l'histoire de cet édifice-là et en faire un édifice complètement moderne, parce que ce que vous proposez, c'est quand même nouveau, là, et de rester aussi éco-énergétique. Alors, parle-nous du défi.
Oui, la première chose, ben, on ne le démolit pas. Donc ça le rend durable pour le coup. On souhaite vraiment le réhabiliter. Premier, tout simplement parce que c'est déjà un bâtiment centenaire. Il date de 1900.
Il est abandonné depuis un bon bout de temps.
Il est abandonné depuis une quinzaine, une vingtaine d'années. Mm-hmm. En effet, avant c'était un bédo et un yellow qui se trouvaient à cette place-là. Il y a encore une quinzaine d'années. Et en effet, il n'est plus occupé depuis. Donc, c'est un bâtiment qui a beaucoup souffert. Donc, le patrimoine intérieur a souffert. Il y a une réalité. Il doit être réaménagé intégralement sur l'intérieur. Maintenant, sur son extérieur, sur son esthétique, on tient à reprendre vraiment les codes. D'ailleurs, le cabinet d'architecture avec qui on travaille, Ressaille-la-Boissière, a travaillé à rendre ce bâtiment comme il était en 1900. C'est-à-dire que sa façade en briques va retrouver ses ouvertures, ses briques et ses trois niveaux. Parce qu'anciennement, il y avait trois niveaux. Aujourd'hui, de l'extérieur, on ne voit plus que deux niveaux parce qu'il y en a un qui a brûlé il y a plusieurs années.
Ah oui, donc on va reconstruire ça.
Tout à fait.
Là, je suis curieux aussi. J'imagine qu'on va les mettre aux normes d'aujourd'hui. Oui. Donc, ça sera un édifice aussi accessible pour les personnes en situation de handicap.
Exactement. Oui, tout à fait. Toutes les normes vont être respectées, celles d'aujourd'hui. C'était tout le besoin d'aller chercher ce soutien, là, d'ailleurs, avec le programme du BCV, qui est un programme du fédéral.
Programme de soutien vert, je pense,
oui. Oui, c'est ça. Ouais. C'est bureau communautaire vert et inclusif.
OK.
Donc, dans le i, inclusif, en l'occurrence, ça sera ouvert à tous.
Maintenant, comment ça va... On parle de la construction, mais là, quand ça va être construit, comment ça va fonctionner au quotidien pour la dizaine d'organismes qui vont s'y installer?
Alors, l'idée, c'est qu'on puisse... c'est des locaux abordables, vraiment. Aujourd'hui, on ne peut pas communiquer sur un coût de ce que ça va être parce qu'il y a encore le chantier et autres. Mais l'idée, c'est que ça soit abordable. Donc, que le prix au mètre carré soit plus bas que d'autres bâtiments qui se soient dans le village ou dans le centre de Montréal. La deuxième chose, c'est de pouvoir mutualiser, on en a parlé un petit peu plus tôt, les ressources, les services, les expertises. C'est de pouvoir se réunir tous ensemble. Il va y avoir un code de vie pour que tous les organismes puissent fonctionner à l'intérieur. Donc, l'idée, c'est vraiment beaucoup de collaboration entre les différents groupes à l'intérieur du bâtiment. Et... de simplifier un peu les services, c'est qu'aujourd'hui, pour trouver tel et tel service, il faut aller chercher sur Internet, on ne sait pas toujours comment s'orienter. Là, de pouvoir réunir tout un tas de services dans une même place va être vachement aidant pour réorienter les personnes vers les bons services, en l'occurrence, et puis au sein du village, qui est vraiment, pour le coup, la place incontournable de la communauté.
Bon, juste rapidement, ça va coûter combien tout ça? Je sais qu'il y a 12 millions qui s'en viennent. Oui,
tout à fait. Ouais. Au total, c'est un projet d'une envergure de 18 à 19 millions. D'accord. Entre l'achat du bâtiment, la gestion, la réhabilitation du bâtiment.
Mais l'édifice est déjà payé, vous l'avez déjà acheté.
Exactement, le bâtiment est déjà acheté depuis 2023. Mm-hmm. Et puis là, on passe dans sa phase de rénovation qui aujourd'hui est chiffrée aux alentours de 13 millions.
OK, donc on est presque tout financé. Là.
On est 100% financé aujourd'hui. Il reste encore... dans le montage financier global, on est bon. Il va rester 2-3 choses à aller chercher. Mais ça, c'est comme des obligations communautaires. Ouais. Voilà. C'est juste pour simplifier le après. C'est qu'on ne pense pas tant à... On a pensé à aujourd'hui, mais le après, c'est de pouvoir maintenir des loyers abordables. Ouais. Donc, on va chercher d'autres sources de financement. Mais c'est sûr que les 12 millions, là, aujourd'hui, c'est vraiment le palier fort.
Alors, à quel moment on croit que ça va être ouvert, ça?
Alors, ça, c'est la grande question. aujourd'hui, on prévoit une ouverture pour 2028. On ne peut pas préciser quand en 2028, tout simplement, parce qu'il pourrait y avoir des débordements de travaux. On ne sait pas exactement le contexte. Puis, il va y avoir la réhabilitation de la rue aussi de Sainte-Catherine. Ouais. Donc, il va falloir cohabiter avec tout ça. Nous, notre objectif, notre souhait, c'est que ça puisse être ouvert pour les festivités de 2028.
De Fierté Montréal.
De Fierté Montréal,
c'est ça. De toute façon, c'est normal, dans tous les grands projets, on peut estimer une date, mais il y a toujours des impondérables dans tout ça. On parle beaucoup de défis de cohabitation, d'itinérance, de fermeture de commerce dans le village. Et puis, on sait depuis des années, il y a beaucoup de personnes mécontentes, ça va pas bien, qu'on dit. Alors, en quoi l'arrivée d'un tel pôle communautaire pourrait participer activement à la relance sociale et économique du village?
Mais c'est sûr qu'avec une présence quotidienne d'organisation au sein du village, ça va apporter du monde. Nous, on parle d'un achalandage d'à peu près de 20 000 personnes annuelles. Mm-hmm. on parle de 10 organismes communautaires à l'intérieur, mais c'est aussi tout le passage des visiteurs et autres. Donc c'est sûr que ça va apporter de la vie déjà dans cet espace-là. Le fait de maintenir aussi des organisations communautaires, c'est que c'est un bâtiment qui va rester. C'est pas un bâtiment où peut-être dans 2-3 ans, ça fonctionnera plus, que les loyers seront trop chers. C'est un bâtiment qui est là pour le durable.
Ouais.
Donc ça, ça va apporter de la durabilité pour le village. Donc c'est sûr que ça va rassurer déjà beaucoup les communautés de se dire, cette place-là va exister et elle va exister longtemps.
Il me reste pas beaucoup de temps, mais on connaît la situation actuelle, comment le climat qui est pas très bon pour les communautés LGBT. Alors, en quoi ce projet-là va-t-il aider à changer un peu, faire tourner la vapeur là?
Ben, ça va offrir un lieu sécuritaire, inclusif, permanent. Ça va soutenir les organismes de première ligne. Ça va renforcer le réseau. C'est d'avoir un bâtiment avec de la visibilité. C'est qu'aujourd'hui, on existe. Parfois, on essaie de nous effacer, mais on ne peut pas effacer un bâtiment tant que
non, tout à fait, tout à fait. Carte est belle, chargée de communication pour Espace LGBTQ+, ici à Montréal. Merci beaucoup.
Merci beaucoup de m'avoir reçu.
Alors, à la météo aujourd'hui, c'est une journée d'été pour l'est du pays. Il y a plus de pluie dans l'ouest. Et puis, les indices UV, j'ai oublié de vous le dire, ça va être quand même d'élevé à très élevé, presque partout au pays. Ça veut dire donc se protéger. Et ça va rester chaud encore pour un petit bout de temps. Alors, profitez-en parce qu'on va se plaindre l'hiver quand il va faire froid. Hein, je vous le rappelle. Après la pause, on va parler des correspondances d'Eastman et on reçoit Chloé Sainte-Marie.
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
La nuit ne fait que commencer. Je veux jouer, je veux jouer. J'ai tant de choses à te montrer. Je veux jouer, je veux jouer. C'est toi qui me donnes des idées. Je ne peux m'empêcher d'imaginer. Tes mains sur
la chanson « Je veux jouer » de Alex.
Alors, faire un tour maintenant dans l'univers littéraire et chaleureux des cantons de l'Est, alors que se prépare un nouvel événement incontournable de la rentrée culturelle. Du 10 au 13 septembre 2026 se tiendra, en effet, la 24e édition des correspondances d'Eastman, placée cette année sous la thématique « Inspirante des amitiés ». Et pour en parler, pour parler de ce qui s'en vient, de ce qui nous attend, ben on reçoit la présidente et directrice artistique du festival, Elisabeth Warling. Bonjour, Elisabeth.
Bonjour, Denis Martin. Merci pour cette belle invitation.
Ben, ça nous fait plaisir. On aime ça, ce festival. Alors, c'est la 24e édition. Wow! Comment est né le festival, en fait, des correspondances d'Eastman?
Ah, c'est une belle histoire. À vrai dire, c'est la comédienne qui est allée à Manosque aux correspondances où les gens s'écrivaient des lettres Louise Portal. Mmh. Et Louise Portal, inspirée, est revenue à Eastman, elle était résidente des cantons de l'Est. Et puis plusieurs personnes étaient très intéressées à l'idée et vraiment je pense que les gens se sont regroupés. Et ont décidé de faire quelque chose de particulier, d'avoir des jardins d'écriture, de se remettre à l'écriture, à écrire des lettres, à correspondre et en même temps à faire venir des gens. Et ça a pris vraiment une ampleur où tout le village participe.
Ah, c'est assez génial, ça. Le festival, donc, célèbre cette année sa 24e édition. Le thème, je l'ai dit tantôt, les amitiés. Qu'est-ce qui a guidé le choix de cette thématique cette année?
Je dois avouer qu'il y avait un groupe dont je faisais partie et la thématique avait été suggérée par la directrice artistique de l'époque et j'étais la seule qui trouvait que peut-être les amitiés, c'était peut-être pas aussi vibrant que le thème précédent, désir ou révolte. Et finalement, malheureusement, cette année, j'ai perdu deux amis très, très proches que vous connaissez peut-être, Franco Nouveau,
oui, Franco.
Et Benoît Rousseau. Et je me rends compte de l'importance de l'amitié. Comment la famille, oui, c'est présent, mais les amis, on les choisit. Alors, je rétro-pédale en disant que les amitiés, c'est un thème vraiment qui nous porte cette année, puis on a créé des belles alliances aussi entre les gens, parce que c'est ça l'important. Eastman, la différence, c'est pas un salon littéraire, mais bien un festival. Alors les rencontres sont au cœur du festival.
Les amitiés, c'est tellement important de nos jours quand on vit dans un monde où les gens sont à couteau tiré trop souvent avec les amitiés et Facebook. Alors, je trouve que la thématique, finalement, apporte un tout autre sens. Hein?
Ah, vous parlez de Facebook, c'est drôle parce qu'on aura une table ronde.
Ah,
je
ne
vais pas vous dévoiler.
Oui.
On a 5 auteurs, autrices qui vont participer. Et c'est porté par la revue L'Inconvénient, mm-hmm, qui organise cette table ronde autour de l'amitié à l'ère des réseaux sociaux. Alors, c'est une question vraiment intéressante dont des gens avec une plume et une répartie assez inspirante vont débattre.
En fait, là, je vais quand même révéler un petit secret parce que je vais être aussi transparent. J'ai des amis qui me disent des choses. Parfois, je ne révélerai pas mes sources. J'étais un petit peu au courant de la table ronde. C'est pour ça que je vous ai amené là-dessus.
Ah, voilà!
C'est comme ça que ça marche des fois. Bon, alors,
mais oui.
Cela dit, parce que la thématique de Facebook et les amitiés, je trouve ça intéressant, surtout de nos jours avec tout ce qui se passe. Ah, c'est peut-être le fun de parler d'amitié dans ce contexte-là aussi. Ah, vous avez déjà annoncé la participation de grandes figures. Hein, on parle de Dominique Fortier, Kim Thuy, Laurel Pintal, Vincent Vallière. Alors, comment ces artistes vont-ils faire résonner le thème à travers leurs interventions?
Bien, c'est vraiment intéressant que vous le mentionniez parce que Dominique Fortier et Vincent Vallière ont travaillé ensemble sur le dernier album de Vincent Vallière. Et là encore, petite confidence, j'ai été chroniqueuse culturelle à Radio-Canada à Toronto et un collègue m'a appelé pour me dire « Elisabeth, on aurait besoin de quelqu'un pour parler du dernier album de Vincent Vallière. » Ah, ben j'ai dit oui, absolument. Et il y a une chanson que j'aimais particulièrement, « Dessine-moi ». Et j'avais pas eu le temps de regarder qui l'avait écrit. J'ai pris pour acquis que c'était Vincent Vallière, mais non, c'était Dominique Fortier. Alors, Vincent me révèle qu'il habite dans les cantons de l'Est et de là est née là, l'idée de faire une grande entrevue avec ces deux personnes-là qui sont différentes, qui font des choses différentes, mais qui se sont unies pour faire quelque chose de magnifique. Et Kim Thuy, Laurel Pintal, même chose. Kim Thuy n'avait pas écrit de pièce de théâtre. Lorraine Pintal lui a dit, mais moi, je pense que tu devrais en écrire une. Kim a dit, non, je suis pas certaine, mais oui, ça me tente. Alors là encore, une belle amitié créative. On a aussi Michel Lemieux et Denis Morin qui ont écrit un livre à quatre mains. Donc, ils l'ont écrit ensemble, sont un couple, et ils ont écrit ce livre à deux. C'est le premier livre de Michel Lemieux. Michel Lemieux, qu'on connaît bien, oui. Là, avec Solide Salade ouais. qui est un artiste incroyable, qui mêle le visuel. Et donc là, ça va être vraiment intéressant. Ce sera lu par, entre autres, la fantastique Bénédicte Descaries. Et on a Monique Proulx aussi qui a écrit un livre, Le bien ne fait pas de bruit, sur l'amitié qui s'est créée avec Gabrielle Roy, donc une amie de Gabrielle Roy, et ça aussi, c'est assez intéressant.
Alors, je sais que la programmation complète va être dévoilée le 28 juillet, puis on a déjà annoncé certaines petites choses ici, faut qu'on est bien content des petites primeurs qu'on a. Mais le festival, donc, se déploie à travers plusieurs lieux magnifiques d'Eastman, dont le Théâtre de la Marjolaine, n'est-ce pas, Eastman, et la Galerie Daniel Marcoux. Alors, comment chaque lieu là, correspond-il, ou comment on fait correspondre les lieux avec les thématiques qu'on veut développer dans les racontes littéraires?
Spiceman, bien sûr, on va mettre l'accent sur la nature parce que c'est un lieu fantastique et d'ailleurs un des fondateurs des correspondances, M. Marinovitch, qui est l'ancien maire aussi d'Isman, mais qui écrit, et aussi le fondateur du SPA. Alors, on va mettre l'accent sur la nature, des ateliers d'écriture, à la galerie Daniel Marcoux, évidemment, le visuel sera à l'honneur, et on a un résident d'Isman qui a écrit une trilogie sur l'époque Bordua. Le peintre Daniel Marcoux est inspiré par Bordua. Et on a aussi un photographe qui avait fait des photos dans la maison de Bordua. Alors, je ne vous révèle pas tout de suite les noms, mais ça va être vraiment intéressant de mettre ces gens-là ensemble et de voir ce qui en ressort. Ça, c'est une activité gratuite, donc les gens vont pouvoir y aller. Même chose, vous n'avez pas parlé du marché.
Ouais.
Mais au marché, le samedi 12, il y aura un marché du livre famille. Il y aura des auteurs qui seront en dédicace. Et ça va être vraiment, vraiment le fun parce que les gens vont pouvoir les rencontrer, se faire dédicacer des livres. Il y a ça aussi à la Marjolaine. Mais là, il y aura des spectacles gratuits. Donc, le samedi, entre 10h et 2h.
On part du 12 août, donc la journée du livre québécois.
Non, le 12 septembre.
Le 12 septembre. Mon Dieu, oui, je suis mêlée de date.
Le festival est en septembre.
Septembre, ben oui.
Mais ça fait écho, effectivement, oui. Le 12.
Bon, ça m'arrive des fois de regarder mes mois, puis je les mêle aussi. Mais au moins, ça permet de faire une mise au point pour moi et pour tout le monde. Cette année, il y a des passeports qu'on offre aux gens. D'abord, est-ce qu'il en reste encore?
Il en reste encore, mais ça s'envole vraiment rapidement ouais. Parce que pour à peine 100$, là, vous avez accès à plus de 30 activités et ça vous assure un siège. Vous pouvez choisir votre siège et le garder tout au long du festival. Par contre, il faut que vous assurez d'être dans votre siège lorsque l'événement commence. Parce que sinon, on se réserve le droit là, de vendre le siège si vous n'êtes pas assis dans votre siège.
Alors, c'est quoi l'avantage des passeports? Alors, donc, on a un siège qu'on peut réserver, c'est ça?
Oui, mais l'avantage, c'est que, bon, une grande entrevue, c'est presque 35$. Ben, si vous allez à plus d'une grande entrevue, déjà, je pense que ça vaut la peine, vous attendez pas. Et puis, vous pouvez passer d'un événement à l'autre. Donc, financièrement, je pense que c'est une très bonne valeur.
Et ça coûte combien le passeport?
C'est, je ne l'ai pas devant moi, ouais. Mais je pense que c'est 90$ plus taxe, ça fait 108$.
On fait trois événements puis c'est payé, hein?
Exactement, c'est accessible. Vous pouvez aller sur le site de la Marjolaine ou en passant par notre site web, lescorrespondances.ca.
Bon, bien, ça fait le tour pour le moment, puis on va probablement se reparler après le 28 juillet pour parler de la programmation complète. Elisabeth Walling, présidente.
Mais... Oui, j'aimerais juste vous inviter parce qu'on a un petit événement gratuit avec le Festival de films de Knowlton ce samedi 25 juillet à l'église, le complexe Saint-Édouard, à 18h30. On aura Samuel Lalande, Marcon Lalande, qui est un explorateur qui a écrit un livre, et Sébastien Ricard, qui lui a écrit le livre La Chouette, qui a narré le film qui sera présenté, Marche au pays réel. C'est fantastique. Allez sur notre site lescorrespondances.ca pour savoir un peu quel sera cet événement-là. Mais c'est un cadeau qu'on offre dans le cadre de Noël du campeur le 25 juillet, ce samedi prochain.
Bien, joyeux Noël d'avance à ceux qui célébreront cette fête-là avec vous autres. Merci beaucoup, Elisabeth Walling, présidente et directrice artistique des Correspondances des semaines.
Au plaisir. Merci beaucoup. Puis je reviendrai vous parler de la programmation complète.
Certainement.
Au revoir.
Je meurs de toi. Lentement, je m'affale de tout mon long dans l'âme. Je marche à toi, je titube à toi, je bois. À la gourde vient du sens de la vie. À ses pas semés dans les rues sans nord ni sud. À ses taloches devant, sans queue et sans tête.
Artiste incontournable de la scène culturelle québécoise. Son engagement artistique et social vient d'être reconnu. Elle a été récemment nommée membre de l'Ordre du Canada. Elle s'appelle Chloé Sainte-Marie. On est très heureux de la rejoindre aujourd'hui. Bonjour Chloé.
Bonjour.
À quel plaisir d'entendre votre voix. C'est quoi la réaction, votre toute première réaction quand vous avez appris cette distinction qui est quand même importante là?
Ah, mais c'était d'abord une grande joie parce que ça reflète tous les gens à qui j'ai voulu rendre hommage dans ma vie, dont les poètes, mes amis autochtones, Joséphine Bacon, Roméo Saganache, donc puis toutes les personnes proches aidantes. Fait que c'est un cadeau qui est multiple et qui rejoint plusieurs millions de personnes.
C'est une reconnaissance aussi hein, pour toutes ces implications, notamment celle de pour les proches aidants, proches aidantes, on va y revenir. Mais toi, personnellement, Chloé, comme là, je te tutoie, mais bon, c'est plus fort que moi, on se connaît depuis longtemps. Comment tu reçois ça, toi, personnellement, comment tu reçois la reconnaissance?
Bien, je le reçois avec un baume au cœur, puis je me dis que Gilles, ça doit être lui en haut qui est le grand Manitou, tu sais, qui dirige avec les baguettes magiques. Mais j'aime penser que c'est Gilles qui est derrière ça, mais c'est toute l'œuvre qu'il a fait et que j'ai fait avec lui pour les proches aidants, pour les maisons Gilles Carle qui sont ouvertes maintenant. On vient d'ouvrir une maison à Montréal, donc je le reçois. Je dis merci, je suis reconnaissante de cette reconnaissance.
Puisqu'on parle de ces maisons, Gilles Carle, l'an dernier, c'était problématique, il manquait de financement. Cette année, ça fonctionne, là?
Oui, ça fonctionne. Je dirais que ça fonctionne bien depuis que Sonia Bélanger est ministre de la Santé.
Ah oui!
Ben, peut-être le fait que c'est une femme, elle a une sensibilité par rapport au rôle des personnes proches aidantes qui sont 60% des femmes. Mm-hmm. Et on sait que les proches aidants meurent la plupart du temps avant la personne aidée. Alors, elle est formée et elle connaît la réalité des aidants. Puis je pense qu'elle a une sensibilité puis qu'elle comprend que c'est une priorité. Puis sans les soins à domicile, on ne peut pas s'en sortir. Puis le Québec va vers la faillite. Fait que il faut les soins à domicile. Puis nous, on est le continuum de service des soins à domicile. On aide les gens dans les maisons. Puis quand l'aidante est épuisée, elle amène la personne malade dans les maisons Gilles Carle. Alors, c'est un projet de société qui est essentiel vu le vieillissement de la population.
Tout à fait. Alors, tu as donné une voix aux personnes proches aidantes qu'on n'entendait pas beaucoup, parce qu'il faut dire le fait que tu as vraiment pris l'avant-plan et tu as beaucoup parlé, mais tu as aussi, toute ta carrière durant, tu as donné ta voix, tu as donné une voix aux grands poètes du Québec, entre autres Gaston Miron. C'est quoi qui a guidé ce désir de porter leurs paroles sur scène?
C'est la beauté de la poésie, l'intelligence du texte, de l'écriture, la vision du monde aussi. Les poètes ont une vision que eux seuls c'est comme des prophètes, ils sentent les choses à l'avance. Puis au fond, les poètes devraient être des politiciens parce que c'est eux qui pressentent et qui sentent vraiment les choses. Ils sont pas des comptables, des gens qui calculent le profit. Et donc, j'ai chanté Miron, j'ai chanté Giguère, tous les grands poètes québécois qui sont les plus grands poètes au fond de la francophonie, avec les poètes haïtiens et africains. Et donc, Gilles disait, nous, au Québec, on est condamnés à l'originalité. Donc, on est condamnés à être bons. Fait qu'on a les meilleurs poètes au monde.
Et tu as aussi célébré par tes chansons les premiers peuples. Hein, tu l'as nommé un petit peu en début d'entrevue. Tu as même chanté hein, des chansons en langue Inuit-Aymun. Qu'est-ce qui a motivé cet engagement?
C'est Joséphine Bacon.
Ah oui?
Je l'ai connue en 1982, donc avec Gilles Carle, quand j'ai commencé ma vie avec Gilles. Et il tournait Maria Chapdelaine. Elle était sur le plateau. Moi, j'étais là comme sa petite amoureuse. Puis on s'est liés d'amitié. Puis un jour, elle est venue me voir. Puis elle a dit, Chloé, je veux que tu chantes ma langue. Et puis, elle m'a présenté deux chansons en Inuit-Aymun, donc de Chantal Bellefleur, de Réal Volant. Puis, j'ai commencé comme ça. Mais au début, j'ai dit non, parce que ça m'a effrayée. Puis, je me disais, je parle pas ta langue, je peux pas la chanter. Puis, elle a dit, je vais t'enseigner. Puis, elle a pris sur elle de m'enseigner, puis de m'aider à comprendre son histoire, de marcher le territoire. Je l'ai fait partout avec elle, à Chouapmouchouan, à Rivière-Georges, on est allé à la Romaine, on est allé à Natashquan, partout. Fait que, et ça, c'est ça qui m'a fait comprendre qui j'étais moi aussi et que je niais. Mmh. Tu sais, comme métisse. Alors, un jour, elle me dit, on est tous métisses. On a, tu sais, ça n'existe pas quelqu'un de pur. Ah,
les pures laines ou les souches ne sont pas toujours aussi claires qu'on le croit.
Dieu merci, d'ailleurs, parce que sinon, c'est dangereux, celui qui se pense pur. Et ça mène vers des guerres puis vers des dictateurs comme tous ceux qu'on connaît, là. Ouais.
Moi, alors, je préfère dire, au lieu de pure laine, pur sirop d'érable, parce qu'on aime tout ça, du sirop d'érable, fait que peu importe nos origines, on va tous être pur sirop d'érable.
Ben oui, on est tous impurs sirop d'érable.
Ah, j'adore! Sirop d'érable,
Mais oui, la pureté, c'est un mot à bannir.
j'adore. Tu ne parlais pas la langue, est-ce que tu la parles maintenant ou t'es capable de chanter la langue Imuinun?
Ben, Bébite, elle me dit que... Bébite, c'est Joséphine Bacon. Elle m'a dit que ça te prendrait une année d'immersion totale.
Ah bon?
Puis, parce que, tu sais, c'est des années de travail avec elle. Mon album en Innu, Not Senten et Sentemun, en Innu et Mun, c'est vraiment, tu sais, un travail de sur 5 ans, là. Fait que si j'avais pu me donner cette possibilité d'aller vivre à la Romaine ou d'aller à Schefferville ou quel que soit dans la communauté ou à Pessamit, qui est la communauté de Joséphine Bacon,
ouais.
Ben je une année et je parlerais, mais bon, j'ai été tout le temps sur la route, je travaille, puis j'ai été aidante, proche aidante de Gilles Carle. Il fallait que je trouve 10 000 $ par mois pour payer ses soins à la maison. Ça coûtait 2 préposés à temps plein, 24 heures par jour. Fait, c'est ça, il ne faut pas l'oublier que ça change une vie d'être aidant.
Tout à fait.
Et on devient dans des fatigues chroniques. Quand on tombe dans une fatigue extrême, on s'en sort plus. Fait que tout ça fait que j'ai pas pu partir pour cette année d'immersion totale, mais Joséphine Bacon, elle a toujours été près de moi, avec moi, pour toute la maladie de Gilles, jusqu'à sa mort, jusqu'au funérail national. Elle était là, elle est venue parler en avant.
Un beau témoignage, ouais. Une belle amitié. Ben justement, ouais. Je pense que c'était ma façon de conclure cette entrevue. Je pense que je devrais te poser la question, comment tu vas maintenant?
Ben, je vais bien. J'ai des amis nouveaux. La vie m'a... Bon, j'ai eu, après Gilles, une relation que j'ai fait mon album Maudit Silence avec Jean Morisset, qui est un des plus grands poètes qui a écrit des livres importants. Puis maintenant, la vie continue. Puis je vais bien. J'apprends à vivre au jour le jour. Puis à pas... C'est pas toujours pensé 2 ans en avant. Puis je prépare mon nouvel album, je prépare un nouveau spectacle qui s'appelle L'envolée d'une prière dans des chapelles sans sonorisation. Donc, c'est magnifique avec des religieuses qui chantent avec moi. On l'a créé le 19 juin au monastère des Ursulines. Il y avait 25 religieuses qui chantaient avec moi l'Ave Maria. Donc, je vais bien, puis j'arrive pas à croire que je suis encore en vie. Déjà, juste ça, avec tout ce que j'ai passé, là, puis la dépression, puis la fatigue extrême, chronique, là, normalement, je devrais plus être en vie. Mais tu es encore en vie.
Bon, on est content que tu sois encore en vie, Chloé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci.
Et félicitations.
Merci beaucoup, beaucoup.
Dans la relève du 18 juillet, la ville de Boucherville a décerné un prix coup de chapeau de l'Ordre du Mérite à la résidente Jessica Larrivé afin de souligner sa persévérance et son parcours sportif. Âgée de 33 ans, l'athlète est engagée dans les Olympiques spéciaux depuis 2004 et y participe de multiples disciplines comme le ski alpin, l'athlétisme et le karaté. Au cours de sa carrière, elle a représenté le Canada lors de plusieurs compétitions mondiales, notamment en Corée du Sud, aux Émirats arabes unis et ainsi qu'aux Jeux olympiques spéciaux de Turin en 2025. Dans les affaires du 17 juillet, le ministre de l'Emploi, Jean-François Simard, annonce l'octroi d'un financement de 5 millions de dollars au regroupement des organismes spécialisés pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Cette enveloppe étalée sur deux ans, s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale pour l'intégration et le maintien en emploi des personnes en situation de handicap pour la période 2025-2028. Elle vise à bonifier l'accompagnement direct des employeurs, notamment par des conseils sur l'embauche, des formations sur les pratiques inclusives et de l'aide pour l'adaptation des postes de travail. Le projet permettra l'efficacité de ces mesures, d'évaluer l'efficacité de ces mesures d'intégration durable dans les milieux professionnels. Oh, il me reste beaucoup de temps pour remercier toute l'équipe. Mathieu Tessier à la régie, merci beaucoup. Merci à Hélène Denis qui m'a soutenu à la recherche. Je m'appelle Denis Martin Chabot. Je suis en ondes à 17h avec l'émission L'heure où l'arc-en-ciel se lève et de retour la semaine prochaine, 27 juillet, pour une autre édition du lundi de l'émission quotidienne. Puis toi, tu feras des vacances, Mathieu, ça fait qu'on se revoit dans plusieurs semaines.